Fait que bonjour, ça va faire 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Hein. Ça fait 2 dimanches, on était partis les 2 derniers dimanches. Finalement, pour ceux qui ont eu l'occasion d'être là, le 3 dimanches, notre vol a été retardé. C'est que finalement, j'avais décidé d'enseigner à la dernière minute, le 3 dimanche. Fait qu'on a eu des belles vacances. Je ne vous ai pas le temps de dire où on y allait, mais on, tant qu'à faire, on va le dire. On est allé à Hawaï, ma femme et moi, si on a passé plus que 2 semaines là-bas. Aller faire de l'aventure. Donc, on s'est même pas assis sur une plage une fois. Là. C'était un autre. On allait là pour voir les volcans, aller faire de la randonnée pédestre surtout. On aime beaucoup faire du hiking, qu'ils disent en anglais. Là. Fait que je vais arrêter beaucoup d'histoires à vous compter. Je ne me prêterai pas à compter, là, mais on a fait une trail. Il y avait une fille qui s'était noyée 2 jours avant qu'on la fasse. Finalement, on l'a fait pareil. Il y a toute une histoire avec ça. On a fait une trail assez dangereuse. Là, mais c'était pour voir la nature dans le fond. Ce qui est particulier à Hawaï, c'est vraiment c'est l'évolution des îles. Mais c'est vraiment des beaux paysages. Puis c'est des paysages. Ce qui est intéressant aussi, ça me faisait penser vraiment. Honnêtement, ça me faisait penser au déluge. Là. D'ailleurs, c'est une réflexion que j'avais, c'est que il y a une affaire évidente qui fait penser au déluge là-bas. J'ai pas vérifié là. Je pense que c'est un des seuls volcans actifs actuellement dans le monde. En tout cas, il y en a-t-il d'autres? Il y en a 14, OK. Est-ce que toute la gang, il y a de la lave qui coule à continu? La boucane. Je pense qu'une des affaires qui est particulière là-bas, c'est que tu peux vraiment voir les coulées de lave parce que pratiquement... c'est ça. Sur plusieurs années, là, c'est rare les interruptions parce que la lave ne coule pas pendant quelques mois, tu sais. Quoique ça a été le cas l'année passée, je ne sais pas pendant combien de temps la lave ne coulait pas, puis ça a recommencé en novembre, c'est qu'on était quand même béni, on est arrivé dans un temps où la lave coulait, puisque c'est une des activités qui est le fun, c'est que tu te fais escorter, là, parce que tu ne peux pas vraiment t'y rendre sans passer sur des terrains privés. Dans le fond, les terrains privés, c'est des villages au complet qui se sont fait remporter par la lave, mais ça reste quand même les terrains privés des gens qui habitaient là, c'est qu'eux autres se sont regroupés, c'est qu'ils te chargent pour t'escorter. Jusqu'à la tombée de la nuit, c'est qu'on t'allait voir, là, on est allé à la tombée de la nuit, puis ça fait un spectacle la nuit aussi, la lave, quand ça coule, là, tu vois tout, comme le feu, là, ça fait, c'est lézardé, mais c'est carrément, on est là, puis t'as de la roche en fusion à côté de toi qui avance, là, que ça fait comme de la mélasse, là. Il y avait du monde qui amenait des guimauves, il fallait choper des guimauves dessus. Bien, c'est à peu près 1000 quelques degrés. Je suis pas sûr à quel point que c'est bien plus chaud. Et moi, c'est ça. Je suis pas sûr à quel point c'est bien plus chaud qu'un feu normal. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est impressionnant. Puis là, ce qui est impressionnant aussi, c'est que la lave va couler dans l'océan. C'est que la rencontre entre la roche en fusion puis les vagues, parce qu'ils ventaient très fort, qui viennent splasher dans la coulée de lave, c'est qu'elle gèle automatiquement. C'est que ça carrément la côte de l'île a grossi à fur et à mesure. C'est que ça s'accumule. Puis là, à un moment donné, la lave va aller couler ailleurs. Donc, les vagues vont continuer à éroder la roche volcanique qui s'est déposée là. Puis là, ça fait des plages de sable noir. C'est assez particulier aussi. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent me faire penser au... T'aperçois rien? C'est-tu normal que la lumière rouge n'est pas allumée? Ça, c'est normal. Tu ne reçois rien, OK. Ben, c'est correct. Je vais continuer à raconter quelques affaires. En tout cas, c'est sûr que on a visité, dans le fond, 2 îles. Là. Ceux qui ne sont pas familiers avec Hawaï, vous irez voir. Là. Moi, je n'étais pas familier avant d'y aller. Remarquez, j'avais... Il y a 8 îles, mais il y en a 5 principales. Nous, on a visité Big Island, qui est la plus grosse au sud. Puis, t'as l'île de la capitale, Honolulu, mais on n'a pas visité. Lorsqu'il y a Pearl Harbor, puis il y a eu les Japonais là, qui ont attaqué. Là. Puis après ça, nous, on est allé à l'île au plus au nord après. Puis c'est l'île qui est plus pluvieux. Il y a plus de pluie, mais c'est l'île probablement la plus belle, l'appel de Garden Island. C'est l'île du jardin. C'est qu'il pleut tellement souvent que c'est vert. T'as des chutes partout, puis t'as de la jungle, puis de la forêt tropicale. D'ailleurs, c'est ça, dans le fond, la première île qu'on visitait, c'est toutes des îles volcaniques. T'sais. Comme bien des formations qu'on a aujourd'hui, ça date d'une époque où il y a eu soit du magma qui a poussé la croûte terrestre, puis des fois ça fait des monts un peu comme les monts qu'on a ici sur la rive sud, les montagnes, c'est la roche magmatique volcanique qui a poussé, puis ça a comme fait une bosse. Puis des fois, il y a carrément des terrains au complet, comme je vous ai déjà dit aux États-Unis, comme le Yellowstone National Park, où ce que c'est... C'est qu'il y a déjà eu, puis c'est encore un terrain très fragile. Là. C'est un terrain très très actif, très fragile. Il y a beaucoup de geysers partout dans le parc national de Yellowstone. Il y a énormément encore de, de pression qui sort, c'est qu'il y a encore, des chambres, des chambres de magma un peu partout en dessous qui sont encore assez actives dans le parc. C'est que là, c'est que la topographie est influencée par une éruption volcanique qu'il y a dû avoir dans le passé. Mais Hawaï, quand tu regardes dans le fond, c'est que même les îles principales font comme un croissant, mais ça continue dans le fond. Il y a plein de petits atolls puis de montagnes sous-marines aussi en t'en allant vers la Russie. C'est comme une ligne, comme une chaîne, si on veut, de montagnes volcaniques. Puis il y en a qui ont fait l'éruption, qui ont été plus haut que le niveau de l'eau. C'est comme les cinq îles, les principales vers le bas. Puis la dernière, comme la plus au sud, elle est encore active. Là. C'est, il y a des volcans qui sont répertoriés. T'as des coulées de lave qui sont répertoriées depuis les années 1800 jusqu'à maintenant. T'sais. Puis là, actuellement, ben, ça coule à une place spécifique. Puis c'est un trou de ventilation qui est fonctionnel actuellement. Sur l'île, il y a à peu près, ben, selon les géologues, sur l'île, il y a comme quatre volcans. Il y aurait eu quatre volcans séparés avec leur propre chambre de magma. Puis là, il y en a un de ceux-là qui fonctionne actuellement. Oui, Dominique?
Moi, justement,
on a oublié qu'il y avait la plus haute montagne. Oui, c'est ça exactement. Si tu calcules à partir du fond marin, parce que d'habitude, les calculs se font à partir du niveau de la mer, mais la montagne sur Big Island, le Mauna Loa, qui est un volcan dans le fond, surtout que dès que tu passes le niveau de la mer, ça continue à couper très vite. C'est une des particularités. Tu quittes la côte souvent, puis ça descend des milliers de pieds rapidement. C'est que tu atteins le fond océanique, c'est plus haut que le mont Everest en élévation à partir du fond océanique. Mais si tu baissais l'eau, si on était autour de l'eau sur la planète, ça serait la montagne la plus haute s'il n'y avait plus d'eau, OK? Parce qu'on le verrait, là, on comparait, tandis que l'Everest est sur un continent. C'est que, tu sais, avant de te rendre à l'océan puis constater, là, c'est que oui. Donc, c'est sûr que c'est assez spécial. Quand tu n'as jamais vu ça, c'est se promener dans de la lave, il faut que je vous montre des photos. C'est difficile à expliquer, je me croyais dans un film de science-fiction, là. C'est comme de la mélasse que je l'ai à terre, c'est que c'est torsadé, ça fait des formes de réglisse, des fois, ça a arrêté là. Puis là, s'il y a eu des tsunamis, mais là, ça a tout brassé, cette roche-là. C'est que là, c'est de la roche qui est très. C'est de la croûte, comme on a émietté, là. Puis tu peux pas marcher là-dessus, tu vas te couper les pieds, c'est plein de silice, là. C'est très vitreux. Siliceux, c'est toutes des. C'est très récent, mais on peut s'imaginer là, certainement que dans l'année du déluge, ou les temps qui ont suivi le déluge, il y a eu des éruptions volcaniques dans le milieu de l'océan, à cet endroit-là, parce qu'en passant, c'est dans le milieu de l'océan, 2500 km à la ronde, il n'y a rien. Il y a juste ça, tu sais. C'est que ça a dû péter là, ça a dû cracher à ce moment-là, puis ça a continué à cracher, encore aujourd'hui ça crache là, tu sais. Il y en a que ça fait plus longtemps, il y en a que c'est plus récent, c'est que dépendamment si ça fait plus longtemps, il y a plus de végétation qui a repris le dessus sur la roche volcanique, parce que partout là tu gratterais le fond de la forêt tropicale, puis tu retombes sur de la roche volcanique encore, tu sais. En tout cas, c'est sûr que ça, c'est impressionnant de voir ça. C'est que ça donne comme la Lille au sud, ça donne aussi une moitié de l'île, ou même deux tiers, c'est très volcanique, c'est très désert. T'as l'impression, par bout, t'es en Afghanistan ou dans des coins comme ça, où t'as pas rien en végétation. Puis, ce que t'as par bout, c'est beaucoup de cônes de cendres. Toutes les collines que tu vois, grosses et petites, ben, c'est des anciens jets de magma, là, des sorties de magma, puis ça a fait des montagnes de cendres. Puis la cendre s'est accumulée, ça fait une montagne avec un trou dans le milieu, puis c'est un peu arrondi avec l'usure avec le temps. C'est que ça avait un tu te promènes, puis c'est spécial. D'ailleurs, l'armée américaine a monopolisé un grand secteur pour leur entraînement. Ils s'entraînent là-dedans avec le tank, puis tout ça, là, dans un grand secteur. Là. En tout cas, c'est que. Puis la deuxième moitié de l'île, ce qui arrive, c'est que les vents dominants amènent les nuages. Ça condense énormément au-dessus d'un île, toujours. Hein. C'est que t'es sur l'océan, tu vois une île, puis t'as un nuage tout le temps au-dessus, pratiquement. Parce que la différence de température entre l'océan puis le sol terrestre fait en sorte qu'il se fait une condensation qui se forme, ça se transporte sur l'île. Puis quand ça frappe les montagnes, comme dans ce cas-là, l'île est séparée en deux par des volcans super hauts, les montagnes, mais il pleut tout le temps à l'est. Tout condense, ça pleut tout le temps. C'est que l'est, c'est vert au fond, c'est plein de chutes d'eau. Puis l'ouest, c'est pratiquement, il y a des places que des grosses compagnies de resorts se sont installées. Il fait beau 350 jours par année. Il y a 15 jours qu'il pleut. Tandis que l'autre bord, il pleut pratiquement l'année longue. Puis il pleut tellement que tu te promènes dans la jungle, t'as des, tu sais, les végétaux, c'est très abondant. T'as l'impression que t'es dans le jardin d'Éden. Tu peux t'imaginer le jardin d'Éden tellement que c'est varié. Cette île-là est quand même assez grande. Là. C'est quand même assez grande île. J'ai pas le nombre de. C'est quand même assez grand. Ça prend 3 heures à aller d'un bord à l'autre. Il faut que tu passes dans les montagnes en auto. Là. Oui, ben pour se rendre comme de la traversée, mais il faut dire qu'on passe par-dessus des chemins compliqués. Là. Mais ça donne vraiment l'impression par bout qu'on est on a une idée un peu de ce que ça pouvait ressembler, le Jardin d'Éden, dans le sens de la faune luxuriante, c'est ça, la flore luxuriante, luxurieuse, je sais pas trop. C'est sûr qu'il pleuvait pas à l'époque, mais certainement avec le phénomène de rosée puis l'humidité ambiante là, qui est dans le style. C'est aussi la diversité. Hein, il y a tellement de sortes de plantes. Puis c'est ça, des plantes d'habitude, t'as l'habitude d'avoir dans les salons des gens ici. Ouais, ben il y en a là. C'est ça. Il y a beaucoup une autre particularité, beaucoup d'arbres fruitiers là-bas. C'est là que tu te rends compte qu'elle mangeait une orange là, puis la manger ici après tout le transport qu'elle a eu, ou manger une papaye là-bas, puis de la manger ici, ça n'a rien à voir là, au niveau, parce que ça mange mûr, elle vient d'arriver là, c'est même pas le même goût, même les bananes ne coûtent pas la même affaire. En tout cas, sans m'étendre là-dessus, mais encore là, l'autre particularité, bon, dans le fond, nous, on allait vraiment là pour, nous, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup l'aventure, nous intéresse, c'est de voir des beaux panoramas, des belles vues, puis on va souvent marcher là-dedans, c'est qu'on aime ça aller faire de la randonnée, puis on a fait des randonnées assez aventureuses, whatever, mais bon, c'est la deuxième île, c'est ça, elle est reconnue, elle, c'est la place. Sur ce style-là, il y a une montagne, c'est l'endroit le plus pluvieux au monde. C'est là qu'il, année après année, il collecte le plus de pousses de pluie. Puis pour une raison ou une autre, les vents dominants, tout ça, ça condense tout le temps. Tu peux être sur l'île, il fait beau autour de l'île, là, tout le temps en montagne dans le milieu, qu'il y a un nuage gris pratiquement dessus. T'sais. Mais tout ça pour dire, ce qui est beau de celle-là, ce qui est impressionnant, c'est le découpage de la topographie. C'est tellement découpé, tu as l'impression que Dieu au couteau, là, il a pris le bord de la côte, puis il l'a découpé au couteau comme ça, puis il t'a découpé comme des pyramides. Tu as l'impression qu'il y a des cathédrales, tu sais. Quand on voyait des vieilles églises, là, des fois en Europe, mais ça avait l'impression que tu as plein de pignons de vieilles églises puis c'est découpé, puis là-dedans, il y a de la terre rouge, et que ça fait des paysages, là, à couper le souffle. Puis souvent là-dedans, c'est qu'il pleut tellement souvent, c'est que l'eau qui stagne en haut sur les plateaux, elle se déverse éventuellement, puis il y a des chutes, il y en a des milliers. Là. Bon, j'exagère, des centaines, plusieurs centaines. C'est que puis des chutes de 1000, 2000 pieds, là, c'est que ça tombe partout. C'est que tu vois ça, c'est très impressionnant. Mais en même temps, dans le fond, c'était ça ma réflexion. Aussi beau que c'est, puis c'est incroyable, puis tout le kit. Puis on a eu la grâce de le faire en hélicoptère. On s'est payé une ride d'hélicoptère pour voir l'île en hélicoptère. C'est pratiquement la chose à faire, ce style-là. C'est avoir le feeling de l'avoir vu, faire un tour d'hélicoptère. Puis c'est extraordinaire. Il y a un canyon sur l'île. Il t'amène dans le canyon en hélicoptère. T'sais. Puis l'hélicoptère, c'est quand même un petit jouet. Là. Tu t'amènes ça là, puis tu verses ça sur un 360. C'est tellement facile de s'approcher de tout puis d'avoir une vue d'ensemble. Il t'amène dans les cratères, toute la patente. Mais ça pour dire que c'est vraiment un bel exemple, cette île-là, là, c'est beau, et c'est vrai que c'est beau, mais ça peut nous faire penser à la création de Dieu, mais ça devrait nous faire penser beaucoup plus, si notre théologie est bonne, au déluge. Parce que dans le fond, il n'y a rien de ça qui était là à la création. Ça ne ressemblait pas à ça. Autant que c'est beau, là, c'est beau la découpe de quelque chose, mais je veux dire, la moitié de l'île n'est pas habitable. Là, je veux dire, c'est tout canté dans des falaises impraticables, puis mouillassio tout le temps là-dedans. C'est que c'est boueux, c'est bon, toute la patente. Mais en réalité, c'est un témoignage du déluge beaucoup plus. Autant que c'est beau, là, tu vois la côte de Napalie, vous irez voir sur Internet si ça vous intéresse. Ça s'appelle la côte de Napalie, parce qu'on a fait notre trail, puis c'est comme une région côtière qui est reconnue pour sa beauté. Mais c'est le déluge, là. C'est carrément le déluge qui a façonné ça. C'est un, même style-là est aussi un volcan, c'est un percement de la croûte terrestre par le volcan. Après ça, c'est un mouvement des plaques de croûte terrestre qui ont aussi formé les bords puis les découpé. Puis après ça, toute l'eau qui s'est retirée, là, une fois que ça a monté, puis l'eau s'est retirée avec les sédiments, ça laissait des... Tu sais, c'est ça qui éventuellement, puis c'est de l'eau beaucoup plus en grande quantité, remplie de sédiments. La terre était fébrile à l'époque, mais ça découpe la terre en se retirant aussi. Ça sable bien, puis ça... Le gros du travail de façonnage s'est certainement fait durant l'année du déluge ou lors de la création de ces îles-là. Par la suite, ça a continué. Là. C'est sûr que l'évolutionniste ou la personne qui ne croit pas au déluge va penser que ça a pris du temps, l'usure de la vague, de l'eau, du vent. Ça l'a fait un effet. Mais pour que ça fasse cet effet-là, il faut des millions d'années. Parce que tu ne peux pas faire l'effet rapidement. Mais tandis que c'est un déluge, dans une époque où toute la Terre est façonnable, on s'entend que la Terre a été fragilisée, ben là, t'as des découpages comme ça, là. C'est que c'est la même chose, que tu as le même feeling si tu vas voir l'Himalaya, tu vas voir d'autres trucs découpés. Dans ce cas-là, c'est comme l'Himalaya, peut-être plus un résultat de croûtes terrestres qui se sont fracassées l'une dans l'autre, puis ça l'a monté. Là, dans ce cas-là, c'est vraiment des volcans, c'est de la roche volcanique qui fait éruption. Puis après ça, avec l'action de l'eau, puis des raz de marée, puis peu importe, qui nous frappait, qui nous se descendre de la montagne, puis retourner dans l'océan, ça l'a fait, ce découpage-là. Mais c'est des beaux témoignages au déluge, dans le fond. C'est que, ça pour dire que, même à quelque part, si tu ne cherches pas volontairement à oublier ces choses-là, comme 2 Pierre 3 nous rappelle, si vous vous rappelez dans les premiers passages que j'avais lus dans le cours, où est-ce que les gens dans les derniers temps, les moqueurs, vont vouloir se moquer de ceux qui attendent l'avènement du retour de Jésus-Christ. Puis ils vont se moquer en se disant que Dieu intervient pas dans l'histoire des hommes. Puis ils vont nier, ils vont oublier volontairement, pour utiliser les termes de 2 Pierre 3, ils vont oublier volontairement qu'un jour Dieu a créé la terre avec l'eau, puis il l'a façonnée. Puis la même terre aussi, il l'a refaçonnée avec le déluge. En 2 Pierre 3, c'est ça qu'il dit. Puis en ignorant ça, pour eux, et c'est leur argument pour dire que Dieu se soucie pas de l'histoire humaine ou s'investit pas ou n'intervient pas. Parce que le déluge, c'est ça qui est intéressant, le déluge, en n'étant pas juste local, c'est vraiment un témoignage universel pour la race humaine. C'est pour, tu peux être n'importe où sur la planète, puis si tu connais Dieu ou si tu reconnais les Écritures, si tu n'as pas oublié volontairement cet événement-là qu'il y a eu, tu as un témoignage continu de la gravité du péché, puis du jugement de Dieu sur le péché. C'est ça que ça te rappelle, dans le fond, quand tu vois un volcan ou tu vois une côte découpée comme ça, si tu penses, puis tu te dis, en fond, moi, je suis en train de me rappeler que Dieu déteste le péché, ça l'affecte Dieu, il a regretté d'avoir créé, puis ça l'a, le jugement qu'il a amené, c'est un jugement universel. Les indices du déluge sont omniprésents. Aujourd'hui, pour pas constater qu'il y a eu un déluge universel, il faut se fermer les yeux, il faut s'inventer des théories puis des explications. Juste les fossiles, juste l'existence des fossiles, universellement, partout, il y en a partout des fossiles. Juste la présence de montagnes, puis de découpes, puis de sédiments, puis de volcans à l'échelle planétaire, c'est tous des témoignages au déluge. Ça peut même pas s'expliquer autrement qu'un événement catastrophique universel. C'est pas des résultats qui, normalement, arrivent avec le temps, le passage du temps long, ça arrive subitement. On en a plein de témoignages, puis en réalité, Dieu se sert même de ça dans le passage, on va le voir, c'est un bon rappel pour nous, comment Dieu voit le péché, comment Dieu intervient avec le péché. Pour l'âme qui est incroyante, ça peut être un incitatif à la repentance, parce que Dieu aussi va juger à la fin des temps aussi, va juger aussi pour les péchés, tu sais. Ça c'est intéressant, me faisait réfléchir à ça. C'est autant que c'est beau, parce que c'est beau aussi, là, je veux dire. On voit ça, c'est impressionnant. C'est ça, je pense que quand je dis que c'est beau, je pense que c'est surtout impressionnant, parce que dépendamment de ce que tu vis sur la planète, ceux sont là à longueur d'année, peut-être sont moins impressionnés, là, mais nous, on vit ici. Quand je suis revenu ici, j'étais moins impressionné un peu. Quand on est débarqué mercredi dans la neige puis dans le slush, là, c'était moins impressionnant. Puis là aussi, je me rappelais que la neige était aussi une conséquence du déluge. C'était pas super cool, celle-là, par exemple. C'était le fun de penser à ça. L'autre affaire qui est le fun de penser, c'est pas des îles qui ont une histoire très vieille. Hein, parce que premièrement, après le déluge, ils sont toutes partis de l'arche, pas loin d'Arara. Okay? Dieu leur a dit, multipliez-vous sur la terre, remplissez la terre. Bon. On le sait aujourd'hui qu'à cause de l'époque glaciaire qui a suivi le déluge, c'est tout ça, là. Puis il a fait aussi qu'il y avait beaucoup d'eau qui était prise dans les capotes polaires à l'époque. On sait que la glace a quand même atteint beaucoup. La glace était beaucoup plus présente après le déluge qu'elle est aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? On y reviendra. Ce qui s'est passé durant le déluge a vraiment encouragé une glaciation beaucoup plus au sud, là, jusqu'au premier tiers des États-Unis, puis même à d'autres endroits, même au niveau du sud, ça a monté plus haut. C'est qu'il y avait beaucoup d'eau océanique qui était prise dans les glaciers. Puis il y a des glaciers aussi dans les montagnes, un peu partout. C'est que le niveau de l'eau était déjà plus bas en partant. Sans compter le fait qu'il y avait des glaciers par endroits qui sont plus là aujourd'hui, c'est que c'est clair que c'est facile à s'imaginer. Ça, même les évolutionnistes le reconnaissent. C'est dans leur théorie aussi des migrations des races humaines. Entre l'Alaska et la Russie, là où il y a le détroit de Bering, c'est clair qu'il y avait une langue de terre ou une langue de glace, terre, peu importe, qui passait là. C'est que c'est sûr que quand tu pars du mont Arara, mettons qu'il est l'Arménie actuelle, si tu connaissais un petit peu Arménie, Turquie, dans ces coins-là, là, c'est sûr que tu vas vers l'ouest, tu colonises l'Europe, tu vas vers l'est, tu colonises l'Asie, là, on est tous sur le même continent, tu vas vers le sud, tu colonises l'Afrique, tout se rejoint. Maintenant, c'est ça, à mesure que tu vas vers l'est, dans ce qui est la Sibérie actuelle, Mont-Russie, tout ça, là, tu pouvais certainement arriver à traverser puis aller te ramasser en Amérique du Nord, au Canada, là, ce qu'on connaît aujourd'hui, puis éventuellement coloniser en descendant vers le sud, en te rendant vers l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Côté Asie, dans le coin de la Malaisie et d'Indonésie aussi, il y a des formations sous-marines. C'est assez facile à voir souvent parce que, je veux dire, en 3D, tu vois que c'est pas tous les fonds marins qui sont aussi profonds. Il y a des places, c'est assez haut. Il y a aussi un détroit possible dans la Malaisie. Ils appellent ça les Malaysian Straits, là, en anglais. C'est possible aussi. Tu peux concevoir facilement que les gens aient migré jusque dans les Nouvelles-Guinées, ces coins-là, Indonésie, qui ont passé par là. Après ça, le saut jusqu'à l'Australie, ça, c'est peut-être à travers des dérives de matériaux quelconques, là, suite au déluge ou suite à d'autres événements plus tard, ou carrément des embarcations. Les gens se sont fabriqués des embarcations. Si le niveau de l'eau était plus bas, peut-être que c'était plus facile de s'imaginer qu'ils se sont rendus en Australie, parce que l'Australie, c'est quand même un coin assez isolé, là. Australie, Nouvelle-Zélande. Mais prenons Hawaï, par exemple, comme plein d'autres îles, mais Hawaï particulièrement, c'est vraiment tout seul dans le milieu du monde, là. Je veux dire, avant que les fils, les descendants lointains de Noé finissent par arriver sur ce style-là, t'en manques facilement aussi. Je veux dire, ça peut prendre 3 heures à faire en char. Je veux dire, sur l'océan, tu passes vite à côté en canot, là, tu sais. C'est que l'histoire est assez récente des premiers êtres humains qui semblent avoir colonisé Hawaï. Là, on parle pas de quelque chose de très, très vieux, là. Je ne me rappelle pas les chiffres, peut-être de 1000 ans ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de théories là-dedans. Parce que quand le capitaine James Cook est arrivé, l'explorateur britannique, mais il y avait déjà un peuple hawaïen en place avec un roi, il y avait déjà une structure. T'sais. Mais dans l'histoire, même eux autres, avant que ces Hawaïens-là, qui sont probablement des Polynésiens, là, qui arrivaient entre l'Asie et l'Australie, dans ces coins-là, la Polynésie, qui sont arrivés là. Même avant ça, il y a des théories, probablement qu'il y a des gens qui arrivaient de Tahiti. Mais pour s'en rendre là, c'était carrément, premièrement, il fallait vraiment du monde courageux pour partir en canot sur de l'océan comme ça. Là, je sais pas le genre de canot qu'il y avait, où se sont perdus. Mais juste l'idée d'aller faire du canot, parce qu'on s'entend, il n'y a pas des paquebots, là, sur l'océan comme ça. Moi, j'étais en avion, puis je trouvais pas ça le fun. Je m'imagine qu'en bateau, ça devait pas être super. Fait qu'en tout cas, c'est peut-être aussi un hasard qu'ils sont arrivés là. Il y a plein de théories. Il y a un genre de pluvier qui migre à partir de l'Alaska, puis qui fait son arrêt à Hawaï. C'est possible qu'ils ont suivi des animaux migratoires aussi. Mais pour vrai, ça je suis pas au courant. Ouais, pour vrai. Ah ouais. Pour vrai, ok. Qui est plus calme, ok. Ça fait du sens. J'étais même pas au courant de ça. C'est sûr, pendant que nous on était là, il ventait particulièrement fort. Je le trouvais pas pacifique sur le bord, mais je peux comprendre qu'overall, oui, tout à fait. Mais c'est tout ça pour dire que ça serait la même chose que je vous dis là, même si on croyait à l'évolution. Mais pareil, c'est intéressant de voir que l'histoire est quand même récente. Si c'était l'évolution, peut-être qu'il n'aurait pas trouvé, ça fait plus longtemps à l'île, si l'histoire de la Terre était si vieille que ça, puis ça faisait si longtemps que l'être humain avait évolué à un stage où ce qui était, qui immigrait puis qui colonisait. Mais c'est quand même super récent qu'elle ait été découverte. Puis l'autre affaire d'intéressant, c'est qu'il y a pratiquement pas de mammifères qui sont endémiques, qui sont originaires de l'île. Tout ce qu'il y a comme mammifères là, c'est tout des mammifères introduits par les premiers arrivants, là. Puis la plupart, c'est des mammifères qu'on est habitué de voir domestiqués, puis qui se sont rendus à l'état sauvage parce qu'ils ont fui les enclos, etc., dans l'histoire. Puis aujourd'hui, ben, t'as des coqs, là, quand je parle des coqs, c'est à la rôtisserie Saint-Hubert, là, des coqs avec la créativité, vraiment un coq typique. T'en as des milliers partout, mais ils sont à l'état sauvage. T'as des chèvres à l'état sauvage, t'as des cochons, des sangliers à l'état sauvage, t'as des chevaux, même il y a une petite population de chevaux à quelque part dans une vallée. Mais c'est tout à l'état sauvage. On appelle ça en anglais « feral animals ». C'est des animaux qui sont devenus sauvages, mais au début, t'es domestiqué. Ça pour dire que les deux feral, ils ont des feral cats, mettons. Tu vois des chats partout, mais c'est pas des chats qui se sont échappés de leur propriétaire. C'est des chats. Feral, F-E-R-A-L. C'est un terme biologique pour dire ce que je viens de dire là, dans le fond. C'est que même des chats, des populations de chats sauvages, fait qu'ils ils bouffent des oiseaux puis des souris dans. Il n'y a même pas de souris, là. Mais tout ça pour dire que les seuls mammifères qu'il y avait sur l'île. OK, bon, les oiseaux, on peut comprendre qu'ils ont réussi à coloniser les îles un peu partout. Les oiseaux, ils ont des espèces d'oiseaux, d'ailleurs, qui sont seulement trouvés là, sur Hawaï. Puis c'est des fois seulement sur une île d'Hawaï, tu sais. C'est qu'il y a une population qui est juste là, il n'y en a pas ailleurs dans le monde. Mais il y a une espèce de chauve-souris. Donc, un des seuls mammifères, la chauve-souris. Fait que ça a l'air qu'il y a une chauve-souris qui a réussi à voler jusque-là. On peut le comprendre. Elle s'est peut-être ramassée en étant sur un billot de bois qui flottait, là, mais je veux dire, il y a ça. Puis l'autre, c'est un phoque. Un phoque qui est en voie de disparition. Il y a encore une espèce aquatique qui peut avoir fait un bon voyage, mais autres animaux terrestres, il n'y a rien de là à part de ce qui a été introduit. C'est intéressant. C'est toutes des choses qui nous rappellent le déluge. C'est intéressant de voir. Eh bien, oui, c'est normal que ce soit comme ça aujourd'hui.
Tu parles toujours dans le coin de Hawaii, ça.
Oui, tout, c'est ça.
Tu sais, le document qui a sorti à Radio-Canada avec. Je ne sais plus qui, il parlait de notre ami l'évolutionniste, là.
Richard Dawkins?
Pas Freud, mais l'autre, le père de l'évolution, là.
Charles Darwin, OK.
Comment souvent, quand ce chercheur-là, Darwin lui-même, qui a fait les îles dans ces coins-là pour enregistrer, noter tous les animaux, il a commencé à sortir des théories d'évolution.
Ça, sur les îles Galapagos, en fait.
Des Galapagos, c'est ça.
C'est pas dans. C'est ça, c'est des îles.
C'est dans ces coins-là, quand même.
Ben, pas vraiment, c'est pas dans le même coin.
C'est loin, mais quand même.
C'est le même principe.
C'est les mêmes sortes d'îles, quand même.
Oui, ça se peut. Les îles Galapagos, c'est probablement peut-être des îles volcaniques. Je ne suis pas au courant. C'est possible. Les îles Galapagos, la différence, c'est qu'elles sont moins loin du continent. Okay, là, Hawaï particulier, parce que c'est perdu n'importe où dans le milieu de l'océan. Ils sont pas loin de. Les Galapagos, je pense que c'est dans le Pacifique. Je pense que c'est du côté Pacifique,
oui.
Pas loin de l'Amérique latine, d'un pays de l'Amérique latine ou Amérique du Sud. C'est juste que lui, dans le fond, je pense que j'en avais déjà parlé, mais je vous le rementionne. C'est que vu. Il a vu sur les îles Galapagos des espèces d'oiseaux, entre autres de pinsons, qui se nourrissaient d'une certaine affaire, parce qu'ils vivaient sur l'île. Cette population-là s'est développée sur l'île. C'est qu'à un moment donné, la nourriture, il n'y a pas 56 sortes de nourriture. Ben bon. Puis il a remarqué que leur bec était particulièrement adapté à ce qu'ils mangeaient. Là, je ne m'en rappelle plus exactement. Peut-être des grains quelconques, peu importe. Mais quand tu faisais quelques, je sais pas, centaines de kilomètres, je sais pas c'est quoi la distance entre les îles Galapagos et le continent, mais tu arrives sur la terre principale, sur le mainland, t'as des espèces d'oiseaux très similaires à celles qui vivent sur les îles, mais c'est une population qui vit sur le continent. Puis il y a des légères différences au niveau morphologique. Entre autres, leurs becs sont légèrement différents de ceux qui vivent sur l'île. Tu pourrais même, nos taxonomistes, ceux qui définissent les espèces, pourraient même les classer en deux espèces différentes. Mais pour lui, il a fait le lien. C'est clair qu'il y a une partie d'une population, à un moment donné, où un couple s'est ramassé sur l'île. Puis, ils ont certainement le même ancêtre. C'est juste que ceux qui se sont ramassés sur l'île se sont adaptés avec le temps, avec les conditions de l'île, dépendamment de la nourriture qu'il y avait, bon, etc. Cette idée-là, en passant, était super brillante. C'est une belle observation et c'était vrai. Je veux dire, même c'est exactement ça qui a dû se passer lorsque les animaux ont quitté l'arche, puis qui sont fait face maintenant à des environnements beaucoup plus hostiles qu'il y avait avant. Ils ont fait face à beaucoup plus de variétés. Et là, ils sont partis, ils se sont reproduits. Puis rapidement, pour comprendre, mettons, t'as un couple d'animaux, ils se reproduisent, tout ça. Là, éventuellement, mettons, dans ceux qui se sont reproduits, bien, il y en a qui s'accouplent ensemble, mais qui vont aller coloniser, là, je parle même des animaux à ce point-ci, qui vont aller vers un autre territoire, parce que là, ils s'éloignent de plus en plus du point central, du point de départ. Mais à chaque fois que tu t'éloignes puis tu vas coloniser un nouveau raccoin, sa planète, mais souvent tu t'isoles géographiquement de tes parents d'avant ou d'une autre partie de tes frères. Puis là, tu t'accouples juste avec les animaux de ta petite tribu, là, de ton entourage. C'est que si ça donne que les deux qui se sont ramassés, mettons, qui ont voyagé, qui sont ramassés en tel spot, ça donnait qu'il y avait des becs plus pointus, mettons, je donne un exemple, puis que c'est quelque chose qui se manifeste dans les gènes, mais les chances qu'il y ait plus de becs pointus dans les générations qui suivent. Dans cette tribu-là, on appelle ça du inbreeding, c'est de la reproduction. On se reproduit à l'intérieur tout le temps des mêmes individus, des mêmes groupements d'individus. Donc, on conserve, on joue tout le temps dans le même paquet de gènes. C'est ça, le même paquet de gènes. C'est qu'éventuellement, ça fait des populations distinctes. Ça fait comme des animaux qui ont des caractères distincts à cause qu'ils se sont isolés géographiquement. Puis ça a donné aussi qu'ils se sont accouplés avec des individus plus similaires à eux. T'sais. La même chose est vraie pour les êtres humains en passant quand on s'est éclaté du déluge et de la tour de Babel. C'est que c'est la même chose aussi avec dans ce cas-là avec ces oiseaux-là. C'est pas que l'oiseau vit pas puis son bec ne s'aiguise pas en vivant. C'est juste que si c'est plus pratique, s'il y a plus de chances de vivre lui parce qu'il y a plus de facilité à casser les graines avec son bec plus pointu. Mais c'est sûr que ses enfants. Il risque d'avoir des becs plus pointus dans ses enfants, puis c'est ceux-là qui risquent de survivre. Ceux qui ont des becs mal aiguisés, les autres, ils risquent peut-être de mourir puis de pas se reproduire tout cas de court. Vous comprenez ça? C'est ça l'idée de l'adaptation, de la sélection naturelle. C'est que naturellement, les gènes, les manifestations des gènes qui sont pratiques pour toi, pour ta survie, c'est eux qui naturellement sont sélectionnés dans le processus de la reproduction. Mais ça demande un créateur qui t'a donné, j'avoue, qui t'a donné un énorme bagage, parce qu'il faut que tu puisses avoir la possibilité d'avoir toutes les sortes de becs dans ton bagage. Si c'est pas là, t'es...
Les animaux, il y avait ce potentiel génétique-là aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait, oui.
Il y a des animaux qui sortent de l'arche, au départ, il n'y a pas d'ennemi comme tel. Là. Ça sort tout de l'arche. Fait que ça prend plusieurs années avant qu'il devienne assez populaire pour commencer à devenir l'ennemi l'un de l'autre.
C'est ça, à compétitionner. Il y avait moins de compétition quand ils sont sortis, c'est sûr.
Noé, quand même, il a vécu un autre 500-400 quelques années de plus. Là. Fait que lui, puis les générations qui ont suivi, ils ont vécu longtemps. Mm-hmm. Les animaux, avec le temps, ils ont pu avoir la chance de grandir au niveau de population. Hein. Les animaux, ils vont se produire beaucoup plus vite.
Exactement. Puis des fois, ils ont plus qu'un à la fois, puis etc.
Les oiseaux aussi, on a un peu plus de nom. Lui, son bec, il va s'ajuster avec le temps, dans le sens, selon les saisons. Son bec peut devenir plus long, pointu, et éventuellement, son bec va revenir en état normal.
OK.
Il va refouler. C'est comme un accordéon, il va s'étirer avec le besoin, puis quand la saison est finie, le bec va revenir. C'est pas de l'évolution, c'est
ouais, là, tu parles des... Tout à fait, les animaux qui peuvent
s'amener. Est-ce aussi qu'il n'y avait pas de compétition avant de lui? Il
n'y avait
pas de guerre
entre les oiseaux. C'est ça, j'en avais parlé, oui, tout à fait. C'est,
donc, il y en a par après,
c'est ça. Avant le déluge, on n'a pas la prédation, on n'a pas la compétition, la compétition malsaine pour la nourriture. De toute façon, c'est l'abondance partout. Il n'y a pas aucun recoin sur la partie sec de la Terre avant le déluge qui n'est pas habitable. C'est habitable partout. Aujourd'hui, il y a un gros pourcentage de la planète qui n'est pas habitable. Ça a changé. C'est pas habitable à cause des altitudes, c'est pas habitable à cause des capotes polaires, c'est pas habitable à cause des déserts, c'est pas habitable parce qu'il y a des coins, c'est juste trop, il y a de l'activité volcanique ou des coins qui, il y a d'autres conditions qui sont pas avantageuses. C'est que, tout à fait. Puis faut aussi comprendre, n'oubliez pas, là, puis des fois, c'est ça qui est le plus troublant. C'est quand, lorsque vous arrêtez puis vous constatez qu'il y a certains animaux, là, qui sont vraiment adaptés pour où est-ce qu'ils sont. Okay? Puis ça a vraiment de l'air pratiquement là, que il fallait que ça soit une des espèces dans l'arche. Ça se peut pratiquement pas qu'il y ait un poisson qui est devenu comme ça. T'sais. Là, c'est sûr qu'on tombe dans le flou. On ne sait pas exactement c'était quoi les espèces qui étaient dans l'arche. On ne sait pas c'est quoi les espèces initialement créées. Mais ça nous révèle juste qu'il y a un énorme potentiel génétique de variation. Il y a des animaux qui vivent dans des cavernes actuellement. Il y a des poissons qui n'ont pas d'yeux. Okay? Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il fallait absolument qu'il n'y ait pas Dieu depuis le début. Ça se peut qu'il ait perdu l'usage de la vue, peu importe, avec le temps aussi. Mais des fois, faut faire attention que ça ne nous trouble pas nécessairement la grande capacité d'adaptation d'un animal dans son milieu. Écoutez, là-bas, là, ils ont appris récemment, parce que là, la plupart des rivières, dans l'île que je vous parlais, c'est pas une rivière que tu peux remonter longtemps quand tu pars de l'océan parce que tu frappes une chute assez vite. Puis il y a bien des chutes que tu frappes que ça a comme genre 1000 pieds au-dessus de haut. Là. Mais il y a des poissons en haut de ça. C'est qu'ils ont découvert une espèce de poisson qui est capable de monter d'une chute, imaginez-vous donc. Puis quand je parle d'une chute, là, une chute de même, là, c'est que c'est un poisson, après 5-6 pieds, 5-6 pouces, puis il y a des ventouses en dessous des nageoires avant pectorales, là, puis ils les ont vus faire, là, finalement, quand ils ont trouvé, ils sont capables de se cramponner après les parois de la chute, là, puis ils se cramponnent, puis ils montent tranquillement, puis l'eau qu'ils reçoivent dans la face, ou je sais pas trop, ça leur permet de respirer. Ils montent des chutes là, de 1000 quelques pieds jusqu'en haut, en se cramponnant tranquillement. Mais là tu vois, l'animal, tu peux pas être plus adapté à ça qu'à son milieu de vie. Je veux dire, il y a deux ventouses en dessous, il est pas trop gros, parce que là, on s'entend qu'à une manière, c'est pesant, plus pesant, là, monter là-dedans. Puis c'est un poisson, tu sais, je veux dire, puis pourquoi qu'il monte, c'est quoi son problème à lui? Bon, je sais pas, j'ai pas étudié ce poisson-là, savoir s'il tripe à aller se reproduire en haut. Il faut absolument qu'il monte en haut. Les femmes sont juste en haut, il est tout seul en bas. Oui, mais c'est ça. Mais ça, des cas comme ça, certainement qu'il peut y avoir des espèces que Dieu avait créées qui avaient déjà des crampons, qui vivaient déjà, mettons, dans des rivières. Mais c'est juste que cette adaptation-là, que je vous passe ça, je vous dis des fois, ils ont l'air super adaptés. Ça ne veut pas dire que le crampon a apparu. Évidemment que lui, il avait déjà des crampons. Mais ça ne veut pas dire que là, il s'en sert pour monter.
Mais
je viens de finir mon point.
En réalité, il est un handicapé. Il devient une proie.
Il devient très spécialisé, en tout cas. C'est sûr qu'un poisson de même, si les chats disparaissent de l'île, oui, il est mal pris un peu, peut-être. Là,
ça, pour partir, ça marche. Mais si ça fait des milliers d'années pour être capable de le faire, dans cette évolution-là, c'est un animal qui est handicapé. Il ne pourra pas vivre, il sera la proie.
Alors, tu veux dire à cause qu'il est trop adapté à son environnement? Moi, le point que je veux vous dire, c'est que je vous donne l'exemple de cet animal-là. Dans le cas où il y a des adaptations qui sont très marquées comme ça, tu sais, les ventouses n'ont pas poussé sur le poisson. C'est pas parce, ça ne veut pas dire qu'il l'a tout le temps utilisé pour monter des chutes. Là, je vous donne cet exemple-là. C'est là qu'il faut faire attention de ne pas errer. Des chutes de même, il n'y en avait pas avant le déluge. Okay? C'est que le poisson, il existait pareil. Mais tu peux t'imaginer d'autres utilisations de ces ventouses. Il y a quand même du courant dans les rivières avant le déluge. Il y a des rapides. Puis bon, il y a d'autres sortes d'animaux qui s'agrippent au fond, après les roches, quand ils vont dans le courant. Puis c'est pratique d'avoir des ventouses. C'est que, tu peux t'imaginer que le même animal avait juste un autre... Et son adaptation lui servait ailleurs dans l'environnement prédiluvien. C'est juste ça que je veux dire. Oui, nettoyer les aquariums d'Adam.
Il y avait-il des pitbulls dans l'arche?
Après. C'est pour ça que... Ouais, c'est... Puis d'ailleurs, une des choses, je n'ai pas parlé avec l'arche, là, mais je le dis parce que je vais peut-être l'oublier de le dire. Il n'y a pas d'indice de ce que je vais vous dire là dans le texte, mais je vous dis juste que c'est une possibilité. Il y a des phénomènes qu'on comprend un peu dans la nature. Entre autres, on comprend un peu le phénomène de l'hibernation, ouais, par exemple. Où est-ce qu'un animal est capable de... Puis qu'est-ce qui l'amène à faire ça, etc. Mais qui est capable de baisser ça, le régime de son métabolisme tellement bas là, qu'il est proche de pas vivre, d'être mort. Mais il est en genre de sommeil pendant un certain temps, puis il est capable de vivre plus longtemps sur la nourriture qu'il avait emmagasinée, sur le gras qu'il avait emmagasiné. Bon, c'est un phénomène encore là. Il n'a pas apparu. C'est certainement une capacité qui était là avant le déluge. Parce qu'il y a des animaux aujourd'hui qui auraient de la misère à vivre s'il n'y avait pas ça, parce qu'ils vivent dans des endroits, je veux dire, quand c'est le temps de l'hiver, t'es tout bien d'aller te cacher, parce que c'est pas évident, là, tu sais. Entre autres, si vous regardez des documentaires pour le Yellowstone National Park, c'est exactement ça. Bon, le point, c'est que c'est possible aussi durant le déluge, pour aider juste la gestion animalière à Noé, que Dieu ait permis aussi qu'il y a certains des animaux qui étaient dans un mode où ce que le métabolisme était moins actif. Donc, on s'entend que je dis pas que c'est ça, c'est possible, parce qu'on le voit dans la nature. Peut-être aussi que l'autre affaire, c'est qu'il fallait absolument qu'ils nourrissent durant l'année, là, qu'ils ont été là, il y avait quand même beaucoup d'animaux à nourrir, ils s'amenaient de la nourriture. Il faut dire que les animaux devaient pas bouger beaucoup, là. Ils devaient être dans des enclos, des raccoins, je pense pas que c'était le party là-dedans, où tout le monde courait partout. À un moment donné, c'est bon. Je pense, puis Dieu s'est souvenu de Noé durant le déluge pour amener un vent, pour apaiser la mer. C'est tout à fait une possibilité aussi que, autant que c'est Dieu qui a appelé les animaux, c'est pas Noé qui a couru après avec un lasso pour les rentrer dans l'arche. Ils sont venus par eux-mêmes, deux par deux. Dieu, dans leur instinct, là, Dieu leur a demandé, ils se sont déplacés vers l'arche. C'est une intervention divine. Il peut y avoir aussi une intervention divine aussi pour les faire relaxer pendant l'année, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, là, je comprends, là, Noé, puis bon, il n'y a pas d'autre chose à faire, mais juste ça, là, juste de gérer l'alimentation. Puis s'il mange beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'excréments, il faut que toi, tu gères ça aussi. Ça vient assez, bon, tu t'envoies ça par-dessus bord, tu as une fenêtre en haut, là, merci. Mais c'est ça. En tout cas, je voulais juste mentionner ça, là, c'est possible. Je suis conscient, je me suis garé là, dans Hawaï, bon. Mais c'était pour rendre ça un petit peu plus d'actualité, les conséquences du déluge aussi. Là, je viens de savoir, Jean-Pierre m'a dit que malheureusement, j'ai comme donné deux fois le même cours, parce qu'à un moment donné, on était juste quatre personnes, puis j'avais le cours sur le début de Genèse 6, le mélange entre les deux races. Puis je l'ai redonné ici, il y a quelques semaines, puis ça n'a pas été enregistré les deux fois. Fait que là, je ne sais pas, à moins que quelqu'un me dise que ça a été enregistré, mais ça a l'air que ça n'a pas été enregistré les deux fois. Fait que là, je sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Les notes sont quand même là, là. Les notes sont là. C'est sûr que c'est plate, là. Cette partie-là, elle est intéressante, mais elle n'est pas enregistrée. C'est que je vous avertis, si vous la trouvez pas, ça serait une erreur d'enregistrement qui serait survenue. Oui, j'avais déjà fait un cours à l'époque, puis est-ce que j'avais enseigné sur le début de Genèse 6, sûrement, là, oui. Sûrement que j'avais enseigné sur le début de Genèse 6. Je m'en rappelle pas exactement si je m'étais rendu là ou si Bon, peu importe. Donc, là, j'ai pas ma montre avec toi. Tu es quelqu'un avec, il me disait juste l'heure. Ah, c'est rouge, ça passe vite. OK. Ma femme me disait l'autre fois qu'elle était restée sur sa faim dans le sens qu'elle n'avait pas le feeling que j'avais complètement couvert le déluge. J'avais bien fermé la boucle pour que ça soit clair ce qui s'est passé. Puis je sais où ce que j'ai arrêté la dernière fois, puis j'étais comme dans le milieu de quelque chose. Laissez-moi faire juste brièvement redessiner tranquillement le déluge, là, qu'est-ce qui se passe. On oublie là, toute la partie, si on a parlé de Noé, il rentre dans l'arche, tout ça. Il y a beaucoup d'enseignements spirituels à aller chercher, là, beaucoup d'encouragement à aller chercher dans la foi de Noé, beaucoup d'encouragement à aller chercher dans la grâce de Dieu qui, à cause d'un homme, a sauvé la race humaine. On s'entend, là, on en a parlé. Noé dans l'arche, puis Dieu, la chose que Dieu a permis pour faire partir le déluge, on ne sait pas s'il s'est servi d'une cause naturelle pour le faire partir le déluge ou c'est lui qui a initié de quoi miraculeusement, surnaturellement. Mais c'est les sources du grand abîme se sont ouvertes. Les sources du grand abîme jaillirent. Verset, je crois, 17 du chapitre. Il faut déjà revoir, mais c'est verset 17 du chapitre 7, je crois. C'est pas 17, là, c'est chapitre 7. En tout cas, le point, croyez-moi, c'est écrit pour vrai. Les sources du grand abîme jaillirent, c'est la première des choses, et après, les écluses des cieux s'ouvrirent. Là, imaginez-vous, il faut se rappeler qu'avant le déluge, il n'y a pas le système hydrologique actuel. Il n'y a pas de condensation, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de transport d'eau dans les airs, puis il ne pleut pas. C'est pas comme ce que je vous ai raconté à Hawaï, là, c'est pas les nuages, ça ne promène pas, puis il ne pleut pas de même. Il y a un phénomène de rosée qui arrose les plantes, mais il n'y a pas des gros différentiels de température, il n'y a pas des vents, il n'y a pas de vent là, notable du tout. C'est pas l'eau circule dans les rivières, puis elle circule de l'océan aux rivières et vice-versa, par une grosse activité souterraine. Avant le déluge, il devait y avoir énormément de réseaux, de caves, de grottes, de conduits souterrains pour conduire l'eau de point A à B. Puis comment est-ce qu'elle pouvait bouger cette eau-là? Qu'est-ce qui l'activait? On peut facilement théoriser que c'était la chaleur interne de la Terre. Jusqu'à aujourd'hui, on le sait, là, le centre de la Terre, c'est chaud. Cette chaleur-là augmentait la pression puis faisait bouger cette eau-là à la forme d'un geyser. Là, c'est un petit exemple de ce qui devait se passer universellement dans le déluge. Puis c'est ça qui permettait à l'eau de voyager dans les rivières. Dieu a permis que tout, puis ça, on parle planétairement, là, okay, il y en avait partout. Dieu a permis que ça fissure, okay, que l'eau jaillisse de toutes ces chambres-là puis ces conduits-là, que le grand abîme qu'il y avait souterrain se vide. Il ne s'est pas vidé au complet parce qu'aujourd'hui, on a encore des nappes d'eau phréatiques, on a encore de l'eau souterraine, mais ça ne peut pas se comparer pour une scène avec ce qui se passait avant. Ça s'est vidé, ça. Ça l'a jailli. Puis on le sait que lorsque ça jaillit, ça a dû causer des mouvements de la croûte terrestre, des mouvements tectoniques, des du fissurage. Ça a dû se casser, ça a dû sortir. Lorsqu'on vient bouger la croûte terrestre, on vient la casser, on vient la fendiller. En dessous de ça, là, c'est de la roche liquide, on a du magma dans le fond, c'est en pression, ça c'est chaud. Ça sort aussi en même temps, ça sort dans le même temps qu'on a des mouvements séismiques, qu'on a des mouvements de plaques. Mais on a aussi, en plus de l'eau qui sort par pression, on a aussi de la roche en fusion qui sort par pression. C'est que ça, là, quand ça a été cet élément déclencheur-là, là, c'est worldwide, planétaire, on a cette sortie-là de cette eau-là. Là, on s'entend, c'est pas juste des geysers qui ont sorti, ça devait être carrément des fleuves, là, parce qu'on avait énormément d'eau souterraine. Ça a sorti partout avec de l'activité volcanique immense. Okay? Il y a dû cracher de la cendre, de la roche, de la lave et de l'eau à grandeur de la planète partout. Ça a causé énormément, certainement, de turbulences dans l'atmosphère. Ça a causé des changements de température aussi dans l'atmosphère avec les volcans. C'est possible que ce soit juste ça qui ait causé la précipitation de la couche d'eau, de vapeur qu'on avait autour de la planète, qu'on a vu dans Genèse 1. Cette couche-là, là, c'est parce que normalement, un nuage va aussi précipiter lorsqu'il est bombardé par des turbulences ou des particules quelconques. Imaginez-vous ça, ça s'en va dans l'atmosphère, ça va causer des vents, des changements de température, ça va faire précipiter. Ça se peut, c'est juste ça qui est arrivé, la couche d'eau. Elle a réagi. Fait que là, il devait avoir énormément. En même temps, tout ça, ça a causé des chambardements atmosphériques. Là, on a perdu toute cette tranquillité-là d'un coup. Est-ce que là, On a commencé à avoir des changements de température, puis là, on a commencé à avoir la précipitation de cette couche d'eau-là qui a commencé à se verser. Là. C'est qu'autant qu'il y avait de l'eau qui sortait de la terre, on avait de l'eau qui descendait du ciel sous forme de pluie pendant 40 jours et 40 nuits que ça a pris pour que la couche se vide de son eau. Mais dans tout durant tout ce temps-là, c'était catastrophique. C'est ça que là, je sais que je l'avais fait ce point-là, je le redis. C'était pas juste catastrophique parce qu'il y avait du volcanisme. C'était catastrophique parce qu'il y avait des tremblements de terre. C'était catastrophique parce que l'eau qui gauchait, là, l'eau qui sortait puis qui se transportait après, puis qui bougeait sous l'action des nouveaux vents qui n'étaient pas là avant, des chambardements atmosphériques, parce que maintenant, on avait perdu la couche d'eau, on était dans le processus de la perte. Tout d'un coup, il y avait des différentiels de température, donc des différentiels de pression dans l'atmosphère, donc des formations de vent, etc. Mais l'eau elle-même, non seulement le vent affectait l'air, mais l'eau aussi a dû se faire transporter juste par le débit causé par l'eau qui sortait d'une façon souterraine, et par les vents, et par le volcanisme, et les tremblements de terre qui causent des genres de tsunamis. Là, je pourrais faire un gros graphique. Là. Ça brassait. L'eau devait se promener énormément, la terre devait se promener, le magma devait se promener, il devait venter, il devait pleuvoir à Sio. Et particulièrement les fonds océaniques qui devaient être remplis déjà de sédiments à l'époque, les fonds des océans prédiluviens, avant le déluge, il y avait des sédiments, il y avait de la boue, ça s'est fait transporté dans les airs, transporté de droite à gauche. C'est qu'on avait des transports aussi de sédiments, énormément de boue. C'est qu'on avait vraiment le portrait de ça quand Dieu a initié le déluge. Ça a causé une catastrophe planétaire qui a dû être d'autant plus intense au début, particulièrement quand il a plu au début, mais pendant une bonne partie, lorsque les eaux ont grossi, ça dit que les eaux grossirent sur la Terre pendant 150 jours. Cette partie-là devait être assez haute durant l'année du déluge, OK? Parce que l'eau n'était pas encore rendue en mode, on se résorbe, on grossit. Ça cause toute une activité. C'est que ça devait... On s'imagine les animaux là qui vivaient à l'époque. Probablement que les premiers qui se sont fait ramasser puis fossiliser, là, logiquement, ça doit être dans les premiers des animaux aquatiques. Ça doit être ceux qui étaient les plus susceptibles déjà de vivre les contre-coups de ça. Et d'ailleurs, j'allais en parler éventuellement. Aujourd'hui, lorsqu'on on voit les fossiles, comme je l'ai déjà dit, c'est des animaux qui se sont rapidement fait englobés par des sédiments, qui se sont fait entraper par des sédiments. Puis, dans les sédiments, il y a des produits qui litifient, qui rendent les sédiments cimentaires. Ça devient cimentaire avec le long, là, ça devient de la roche. Un sédiment, de la boue, ça va éventuellement venir de la roche. C'est pour ça qu'on appelle la croûte terrestre la lithosphère. Là, c'est litifié, ça devient dur. Mais il y a un même phénomène qui fait devenir dur aussi, si on veut, qui fait devenir comme de la roche les restants d'un animal. Ses os, etc., là, peu importe. Le point, c'est qu'un animal, normalement, se ferait détériorer par des bactéries, des virus, il se ferait manger par d'autres animaux qui se bouffent, des animaux morts. Mais là, il est pris, puis l'oxygène, puis ces animaux-là, puis les bactéries n'ont pas accès. C'est que tout ce qu'il lui subit, il va subir le même sort que les sédiments à côté de lui subissent. Il se fait litifier, ça fait durcir, puis il devient ce qu'on appelle un fossile. D'ailleurs, lorsqu'on regarde aujourd'hui, c'est loin d'être ça qu'on voit. Là. Aujourd'hui, on voit, lorsqu'on fait le tour de la planète, on voit beaucoup le phénomène des strates. On voit beaucoup de stratification, c'est-à-dire si on coupe dans la Terre, il y a des endroits qu'on voit pas ça, puis c'est de la roche volcanique, mais d'autres endroits, surtout sur les continents, parce que nos continents actuels, c'est surtout de la bouette, là. C'est tout de la roche sédimentaire qui a solidifié, c'est des sédiments qui ont solidifié. On voit le phénomène de strates. Ça, d'ailleurs, en passant, là, de voir différentes strates, c'est pas parce que chaque strate, ça a pris des millions d'années que ça se dépose. Tu peux faire de la stratification très simplement. Vous prenez un bol d'eau, là, puis vous mettez là-dedans des sédiments de différentes grosseurs, des plus gros cailloux, des petits cailloux, des grains de sable, des sables un peu plus gros, puis vous brassez tout ça. Là, il y a juste un phénomène très physique là, de répartition par gravité, par volume, par densité, où est-ce qu'il y a déjà une gradation qui se fait lorsque là, tu mets ton pot, là, tu le laisses reposer. Les choses les plus lourdes ou les choses, dépendamment, c'est un mix de poids, de densité, de volume, bien, ça se place en strates déjà, là. Tu sais, le phénomène d'avoir des strates, c'est un résultat d'avoir brassé de quoi. Mais de trouver des fossiles à travers ça, c'est là que tu les trouves. L'évolutionniste, lui, va interpréter ça en disant, OK, Ça a pris des millions d'années à chaque strate qui se dépose parce que ça reflétait un climat à cette époque-là et des circonstances particulières sur la planète. Puis, les animaux que je trouve morts dans cette strate-là, que je trouve fossilisés, c'est des animaux qui vivaient à cette époque-là. C'est ça l'interprétation. Puis ça a duré des millions d'années. Là, il y a une autre strate qui reflète un autre partie, un autre climat de l'époque de la Terre. Puis les animaux qui sont dans cette strate-là, ben donc, ils regardent ça. Il y a tout de suite une présupposition que ça a pris, qu'il y a eu une évolution. Parce que tu peux regarder le même tableau. Là, je pourrais, mettons, couper dans la Terre, faire une grosse coupe dans la Terre où il y a des strates, puis on voit des animaux fossilisés là-dedans. Je ne suis pas obligé de l'interpréter comme « Ah, OK ». OK, oui, c'est absolument, ça s'est déposé par-dessus l'autre. Ça a dû prendre du temps parce que le taux de déposition de sédiments, c'est long. D'ailleurs, c'est un peu difficile de s'imaginer que les animaux puissent fossiliser dans ce temps-là dans des sédiments qui se déposent si lentement que ça parce qu'ils sont fossilisés dans le sédiment. Peu importe, on met ça de côté, cette twist de l'esprit. Mais tu sais, OK, bon, si ça a pris du temps à se déposer, c'est certainement que les animaux qu'on a vécu là, c'était de cette époque-là, puis ils sont pas pareils comme eux. Puis après ça, tu as le goût de dire, bon, la théorie de l'évolution, ce qu'il y a le goût de dire, c'est que on part du plus simple vers le plus complexe. Puis souvent, dans ces strates-là, c'est ce qu'on voit. Excusez-moi, souvent des animaux plus simples, plus petits, plus simples au niveau cellulaire, qui sont plus dans le fond. Après ça, tu as souvent plus les animaux genre aquatiques qui sont aussi plus dans le fond. C'est souvent plus les mammifères et les grands animaux qui sont hauts dans les couches de strates. Ce que je vous dis là, c'est pas vrai. Il y a plus souvent, tu rencontres souvent des exceptions, ce que je viens de dire là. Ça, ce que je vous ai dit là, on voit ça dans nos manuels à l'université, OK? Mais dans la nature, tu vois pas ça si souvent que ça, parce que souvent, les couches sont toutes twistées, les strates sont twistées, sont inversées, t'as des animaux que ça fait plus trop de sens où ce qu'ils sont. Mais à chaque fois, si t'as assumé que ça allait évoluer, tu vas interpréter qu'il y a eu une petite mini-catastrophe à quelque part, là. Tu sais, c'est souvent ça, une petite mini-catastrophe qui a fait dans ce coin-là, ça a viré de même. Mais tu vas tout le temps finalement te rely, là, tu vas te confier dans une explication catastrophique pour expliquer pourquoi ça ne fait plus ton modèle. Mais l'autre possibilité, si tu crois dans un déluge universel, pas parce que tu es intelligent, juste parce qu'il y a un créateur qui te l'a révélé dans le sens des Écritures, tu regardes la même chose, tu te dis, hey, tout ça a pu se passer dans un an, puis ça a fallu que ça se passe vite, parce que pour que les animaux soient fossilisés, il faut que ce soit pris dans de la boue super rapidement. Puis là, tu te dis, aïe, il y a une belle évidence qu'il y a dû avoir de l'eau, un gros amas d'eau qui bougeait beaucoup pour qu'on ait des strates de sédiments aussi impressionnantes que le Grand Canyon, par exemple. Si vous n'avez jamais été sur le bord du Grand Canyon, c'est assez impressionnant, là. Ils ont pas pratiquement un kilomètre de profond avec des strates, des couleurs différentes. C'est très, très impressionnant. Mais là, si tu crois au déluge, je peux dire, logiquement, s'il y a un déluge, je dois m'attendre à ce que je vois là, je le vois tout croche un peu partout. Ça sera jamais la même affaire parce que c'est une catastrophe, le déluge. Des fois, ça va tout être inversé. Des fois, ça sera pas les mêmes couches de sédiments. Je dois m'attendre aussi à trouver des genres de fossiles, des cimetières de fossiles. Ça veut dire, m'a trouvé un paquet d'animaux pas reliés ensemble, sont tous maganés dans le même coin, les os cassés, puis sont tous fossilisés en moton. Excusez-moi les termes, là. Mais si on en trouve ça, des fossiles, fossil graveyards, des cimetières de fossiles, on en trouve. C'est encore témoignage que ces gangs-là se sont fait fossiliser. Pas parce qu'il marchait tranquillement, parce que dans un événement catastrophique. Bon, ceci étant dit, imaginez-vous, là, vous êtes le déluge, puis vous êtes un animal, OK? T'as la tortue à côté, ou t'as le poisson, t'as la tortue, puis t'as la gazelle, OK? C'est, logiquement, t'as le poisson ou les organismes aquatiques, mais plus unicellulaires, ils ont beaucoup plus de chances de se faire pogner par la boue parce que leur capacité de déplacement est beaucoup moins grande qu'un autre animal. Ils sont plus petits. Déjà, en étant plus petits, il y a plus de chances qu'ils se fassent pogner plus facilement. Leur habitat naturel, c'est déjà dans l'eau. Puis c'est dans l'eau que ça a commencé à être rough, OK? C'est que si la gazelle, elle... Puis ça, c'est bon pour les êtres humains en passant. Là, je vais terminer avec ça. Durant le déluge, les êtres humains, là, comme je dis, l'eau n'a pas monté tranquillement. Il y a eu des catastrophes partout. Il y a certainement des places là-dedans parce qu'il y avait des gens qui avaient l'occasion de fuir. À un moment donné, c'est sûr, quand c'est mis à mouiller, c'est mis... Mais là, je veux dire, si tu habites ici avec ta ville puis que là, il y a des éruptions là-bas, ben tu t'en vas, OK? Puis en plus, en tant qu'être humain, tu es plus intelligent, peut-être que tu es plus intelligent que les animaux autour. Tu t'organises d'aller te canter sur le top de la montagne là-bas que ça semble être plus tranquille. Tu risques peut-être de te faire pogner plus en dernier par un raz de marée que le poisson, lui, qui est dans l'eau. Là. Il va se prendre à l'eau, mais il va se faire ramasser à un moment donné. Ou l'autre animal qui vit déjà proche de l'eau, lui, puis il a une capacité de déplacement limitée. Il est petit, il va peut-être faire ça. Il risque de plus à ramasser dans les fonds de tas de sédiments quand il se fait ramasser ou quand il se fait voyager. c'est la tendance à voir des animaux aquatiques vers le fond des strates, ça fait du sens si on s'imagine un déluge. La tendance de voir des animaux plus gros, plus complexes dans le top des strates, ça fait aussi du sens dans le cas d'un déluge. C'est ces animaux qui risquent d'avoir eu l'occasion de fuir plus vite, de fuir plus, puis d'avoir plus, d'après pris plus de temps avec un raz-de-marée, les ramasse eux autres. Okay? Il y a peut-être un premier raz-de-marée qui a ramassé cette gang-là. Ben, eux autres, ben, ils ont réussi à vivre plus longtemps parce que peu importe, ils pouvaient s'échapper. Puis leur habitat était déjà pas un habitat naturellement aquatique. La gazelle, elle vit pas. Elle a besoin d'eau, mais elle vit pas dans l'eau. Puis c'est pas un amphibien qui a besoin de retourner à l'eau tout le temps. C'est que, ça, ce que je vous dis là, ça, c'est des théories. Mais c'est juste qu'en croyant au déluge, j'essaie de m'expliquer. Si j'étais un scientifique, ben, j'essaie de m'expliquer pourquoi quand même on revoit souvent ce genre de tendance-là, là. Plus simple vers ce qui est plus complexe à mes yeux dans les strates, ou plus aquatique vers ce qui est plus complexe, plus mammifère, plus terrestre. Parce que c'est pour ça que les gens, que les évolutionnistes, l'histoire qu'ils ont inventé, c'est de dire que la vie vient de l'eau, parce que les plus vieux animaux sont plus simples, la vie vient du plus simple vers le plus complexe, puis la vie vient de l'eau parce que c'est les animaux les plus vieux, c'est la plupart du temps des animaux aquatiques. C'est que, tu sais, leur théorie dépend de ça. Mais vous comprenez que toute la théorie de l'évolution, là, dépend de ces... Je vais finir avec ça aussi. Là. Bon, mais je viens de vous dire que, vous voyez, si vous avez une vue où est-ce que le déluge est vrai, vous pouvez regarder ça puis l'interpréter tout à fait différemment, puis ça fait tout autant de sens, puis vous allez avoir des idées différentes de l'autre parce que vous, votre modèle d'étude est différent. Donc ça vous amène des idées différentes, des fois des idées qui peuvent être bien brillantes aussi parce que vous pensez sous un autre modèle. Moi, je pense avec un déluge en tête, c'est sûr, ce que je regarde là. J'essaie de comprendre pourquoi que les animaux aquatiques sont dans le fond, mais je vais m'imaginer une explication qui est plus harmonieuse avec la Bible, puis honnêtement, au bout du compte, qui explique souvent mieux qu'est-ce que je vois que l'évolution pourrait expliquer.
Mais typiquement, ce que tu expliques, c'est le fait que la science d'évolutionniste est une science subjective. Il n'y a aucune preuve qui suppose ces choses-là.
Comme nous, en
fait. Non, nous autres, c'est objectif parce que ça peut se prouver, du moins, théoriquement, ça peut se prouver. Quand tu dis que tu as des catastrophes soudaines, tu peux prouver sur une échelle. Voici
qu'est-ce
qui arrive.
C'est ça. Dans ce sens-là, c'est vrai. Quand je dis que c'est subjectif, je veux dire que c'est une science historique dans le sens qu'il n'y a personne qui était là, ça s'est passé. Moi, là, ma seule conviction que c'est arrivé, c'est parce que Dieu me le dit, puis je crois que Dieu existe, tout ça, mais je ne peux pas le prouver à la manière de la méthode scientifique contemporaine qui veut qu'on reproduise l'événement en laboratoire. Sauf que nous, je crois que c'est beaucoup plus facile de pouvoir reproduire une mini-catastrophe ou de voir des mini-catastrophes aujourd'hui qui donnent des résultats similaires à ce qu'on voit de façon planétaire. Là, les mini-catastrophes, c'est des reproductions de ce qui a pu se passer dans le passé. Ça devient comme un test. Ça devient comme un test objectif. Tandis que l'évolution, on n'a pas nulle part encore. Parce que ça prend trop de temps. Parce que ça prend trop de temps à évoluer. Puis je finis avec... Ça, c'est mon père, c'est un reportage qu'il a vu concernant justement la péninsule du Yucatan, le cratère puis l'extinction des dinosaures.
Les scientifiques sont même étudiés. Là, ils voient en inclure la catastrophe. Là, ils viennent d'inventer eux.
Non, c'est sûr. Ça fait plusieurs années que ça roule de même. C'est des explications. Il me reste combien de temps, là,
c'est-tu? C'est 2 minutes en retard.
OK, je finis. 2 minutes en retard? OK. Bon, bien, regardez, je vais finir avec ça. Ce matin, j'ai parlé beaucoup d'Hawaï, mais il va falloir que la semaine prochaine, je ferme la boucle du déluge avant qu'on passe à d'autres choses, OK?